En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame Samama est là aujourd'hui et je l'en remercie. Vous avez la parole.
Je fais la touche exotique dans cette journée très tournée.
Hier nous sommes allés en Amérique.
Pardon.
Amérindienne.
Oui, malheureusement, je ne pouvais pas être là
Chine,
hier.
En Chine, Mme Kalanka. Non, vous êtes très européenne.
Oui, non, disons exotique chronologiquement, alors. Donc les Grecs ne sont ni les premiers ni les seuls évidemment à pratiquer l'art médical, et en Égypte il y a une tradition ancienne qui est déjà posée par écrit. Ce qui fait l'originalité des Grecs et du coup probablement aussi leur célébrité, c'est la constitution de la médecine dans une discipline, on va dire entre guillemets scientifique, qui allie la réflexion théorique et l'observation. Et ce sont les deux piliers de ce que Claude Bernard a appelé la médecine expérimentale en 1865. Parce que dans le monde grec, apprendre la médecine, c'est-à-dire la techné iatrique, c'est à la fois acquérir des connaissances théoriques, épistémé, et en même temps disposer d'une expérience, l'empeiria, qui va faire du médecin un technites, c'est-à-dire quelqu'un qui allie le savoir et le savoir-faire. Pour cela, il est donc prévu qu'il fasse un apprentissage et qu'il s'entraîne. Dans le domaine particulier de la chirurgie, de la traumatologie, de ce qu'on peut appeler rapidement et vu de quelqu'un de non professionnel, la médecine d'urgence, l'entraînement se fait évidemment de manière assez commode en suivant une armée en campagne. Et les guerres ne manquent pas. L'auteur du traité hippocratique, qui s'appelle Du médecin, a noté « Celui qui veut devenir chirurgien doit donc partir en campagne et assister les troupes de mercenaires. Ainsi, il sera entraîné aux nécessités de cette tâche. » Et c'est cette citation qui me sert de titre pour cette intervention, puisqu'elle conseille aux praticiens débutants de suivre les armées pour se former à l'extraction des traits et aux soins des blessures en général. C'est ainsi que le médecin va améliorer ses connaissances en anatomie. Je rappelle ce que tout le monde sait, que dans l'Antiquité, la chirurgie et la médecine ne sont pas dissociées et que les médecins sont à la fois chirurgiens, pharmaciens, préparateurs de remèdes, enfin ils font toute la chaîne médicale, et ils pratiquent donc des opérations avec un matériel plus ou moins important. Il faut préciser aussi que le traité que j'ai cité, qui s'appelle donc Du médecin, date de l'époque hellénistique. C'est pour ça qu'il parle des troupes de mercenaires et non pas des armées des cités. Il servira donc de fil directeur à cette analyse, et je vais tenter de répondre à la question suivante. Existe-t-il dans le monde grec une médecine militaire ? Puisque tout le monde sait là aussi que c'est devenu la norme à partir de l'Empire romain, en gros à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser aux modalités de l'apprentissage traditionnel de la médecine et aussi de la chirurgie. Dans un deuxième temps, je vais prendre en compte les connaissances spécifiques à la traumatologie. Et enfin, je chercherai à voir s'il y a des praticiens des médecins militaires ou pas militaires dans les armées. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage, la médecine, au départ, est une affaire de famille. La transmission des connaissances est réservée aux personnes qui se disent descendantes d'Asclépios, donc les Asclépiades, et ils ont donc, d'une certaine façon, un monopole des iatroi, c'est-à-dire des médecins dans le monde grec, sachant que l'activité cultuelle à Asclépios et l'activité professionnelle semble se confondre. Donc, de père en fils, les jeunes gens sont formés. Mais l'enseignement, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, s'ouvre aux non-membres du Génos, qui peuvent, moyennant finance, apprendre leur art auprès d'un maître pour soigner maladies et blessures. Hippocrate lui-même, puisqu'il faut quand même en parler, est un professeur renommé. Il aurait vécu entre 460 et 370 avant notre ère, et il était accompagné dans ses visites certainement par un grand nombre de jeunes gens, futurs médecins. Alors, vous avez bon, évidemment Hippocrate et Asclépios. Ce mode d'apprentissage s'est maintenu donc auprès d'un maître durant toute l'Antiquité et se développe au point de devenir la règle. Le recrutement est ouvert donc à tous et il convient de ce fait de s'assurer d'un minimum de déontologie. Et c'est probablement à l'intention de tous ces nouveaux médecins qu'a été rédigé le serment, que je ne lirai pas parce que il est connu, qui va cadrer les relations entre les maîtres et disciples et qui établit une sorte de lien contractuel et moral entre les deux. Peut-être juste la fin du premier paragraphe, de transmettre les préceptes, les leçons orales, le reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, aux disciples, etc. Et à nul autre, c'est la profession est d'une certaine manière relativement bien encadrée. Pardon ? Héréditaire au départ, mais là, elle n'est plus héréditaire. Elle peut l'être, mais elle ne l'est plus forcément. À partir de grands centres de formation traditionnels comme Crotone, Cyrène, Kos, Cnide et évidemment plus tard Alexandrie à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, les connaissances médicales écrites vont se répandre dans l'ensemble du monde méditerranéen, notamment par la pratique de l'itinérance, parce que les médecins, comme la plupart des autres technitai, les poètes, les musiciens, les orateurs et les soldats, passent de ville en ville, de cité en cité, là où le besoin s'en fait sentir pour répondre à la demande, donc, ou proposer leur service. Il faut évidemment redire que, quel que soit leur mode de formation, les étudiants ne subissent pas d'examen et il n'y a aucun diplôme. Le contenu de la formation, la durée, sont donc des éléments très variables. À l'époque du bas-empire romain, donc bien plus tard, il semble, d'après certains textes, que les études médicales durent environ 5 ans. Comme elles commencent vers l'âge de 14 ou 15 ans, il n'est pas étonnant de trouver des épitaphes de jeunes gens décédés dans leur 20e année et qui ont déjà le titre de iatros médecin. Les médecins voyagent à la fois pour compléter leurs études, pour exercer leur art, et ils sont mandés à l'occasion d'un conflit, par exemple, pour intervenir, et c'est à cette occasion qu'ils vont développer leurs connaissances chirurgicales. Ils ont néanmoins un savoir théorique. Le corpus hippocratique, qui se compose d'environ de 70 textes, comprend des traités chirurgicaux, dont j'ai tapé la liste dans la colonne de gauche. Il y en a un qui est perdu, mais Peritromatone Caibelone, les autres sont accessibles. Alors, ils ont été tous publiés dans l'édition d'Émile Littré, mais la plupart sont repris maintenant dans des éditions plus récentes. Ces traités présentent, par exemple, dans le domaine de la réduction des luxations, des méthodes qui sont encore en pratique actuellement, mais dans l'ensemble, ce ne sont pas les traités qui sont les plus nombreux dans le corpus hippocratique. Ils représentent un peu moins d'un septième de l'ensemble du corpus. Les trois plus célèbres, c'est-à-dire fracture, articulation et plaie à la tête, remontent au 5e siècle. Ils font partie des traités les plus anciens du corpus hippocratique. Le savoir, qui est principalement donc orthopédique et traumatologique, est alors accessible à qui le désire, puisque les textes sont écrits sur des rouleaux de papyrus que l'on peut rouler et mettre dans des boîtes cylindriques, et ça peut très bien s'emporter dans tous les voyages possibles. Un autre ensemble de textes, qui est le groupe des 6 livres des épidémies, qui ne parle pas d'épidémie au sens où nous l'entendons maintenant, qui traite au contraire des maladies que les Grecs appellent épidémies, c'est-à-dire des maladies locales, je pense, nous dirions endémies. Donc ces 6 livres des épidémies présentent des études de cas qui peuvent, là en l'occurrence les deux que j'ai choisis concernent la guerre, puisqu'il est question, je ne vais pas les lire, mais d'une blessure au ventre par flèche pour le premier et d'une blessure à la lance par l'arrière pour le second. Quand on lit toutes ces histoires, tous ces cas, on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont des notes. des notes rassemblées, probablement d'après des feuilles détachées, ce qui explique l'absence de logique. Il n'y a même pas de syntaxe suivie, douleur de ventre terrible, le ventre s'enflamme rapidement, etc. Le traitement n'est pas développé parce que le médecin doit comprendre, à la simple vue de tel blessé, que le cas est désespéré et que tout ce qu'on lui demande, c'est d'annoncer la mort, c'est ça, faire un pronostic. Là, évidemment, il est chaque fois précisé « il mourut », et puis « il mourut » aussi, le deuxième meurt également. Il doit être capable, en regardant donc le blessé, que l'évolution est forcément funeste et généralement rapide. Quelques progrès décisifs sont accomplis à l'époque hellénistique, notamment grâce à l'apport des connaissances acquises dans d'autres domaines, et notamment la mécanique, qui va permettre aussi de fabriquer des machines, puisque Moschlik, c'est le banc d'Hippocrate, enfin, c'est une des méthodes pour aider en orthopédie. Et quelques améliorations dans le domaine de l'anatomie vont permettre aussi d'améliorer un petit peu, notamment les connaissances chirurgicales. Mais, et j'en viens là à l'apport des armées, c'est essentiellement des blessés dans les conflits que les médecins vont apprendre. Les premiers soins donc, sont déterminants. Le blessé sanglant est d'abord soustrait à la mêlée. Alors, s'il peut marcher, il le fait tout seul, sinon il peut être emporté par un camarade. Il est installé à l'écart du champ de bataille, de préférence sous une tente, sur quelques linges. Et plutôt que d'imaginer évidemment que chaque blessé, même quand c'est un héros américain, est porté dans sa tente, il faut imaginer que sur le plan pratique, les blessés sont emportés, regroupés dans un lieu où peut-être installé aussi le matériel nécessaire. Les textes antiques ne sont évidemment pas clairs sur ce point parce que ça n'est pas forcément leur perspective et ça ne les intéresse pas. Ces détails de logistique qui vont être par la suite, par exemple, photographiés au moment de la guerre de sécession ou de la Première Guerre mondiale, n'intéressent pas du tout les lecteurs ou auditeurs antiques qui ne sont passionnés que par l'enjeu de la bataille. Les textes ne rendent pas compte non plus d'un possible choix parmi les blessés, si leur nombre était trop important. Mais le médecin hippocratique sait parfaitement distinguer entre les blessures qu'il peut soigner et les autres. Il est même déconseillé de s'occuper des cas trop compliqués. Donc je cite, « Les affections incurables, donc en grec « anekesta », on doit les connaître afin de ne pas causer de souffrances inutiles. » C'est ce que dit l'auteur du traité des articulations. Mais on n'a pas besoin d'être médecin, les soldats le savent eux-mêmes, les blessures à la tête, au torse, au ventre et celles qui donnent lieu à une importante hémorragie sont évidemment considérées comme funestes. Celles qui touchent les membres, en revanche, peuvent permettre d'espérer la survie du blessé. Avec un peu d'expérience, la plupart des soignants ont appris les gestes indispensables. Retirer le projectile, stopper l'hémorragie et nettoyer la plaie. C'est dans d'ailleurs cet ordre-là qu'il s'est présenté dans les textes littéraires et historiques, et c'est apparemment les gestes qui restent habituels. Alors je cite Galien, « Qui est plus utile qu'un médecin lorsqu'il s'agit de blessures, donc traumata, que l'on reçoit durant la guerre, de l'extraction des projectiles, bello nex aere seis, et il reprend par cette interrogation oratoire, il reprend un vers de l'Iliade, du chant 11, le vers 514, qui précisément disait « Le médecin est un homme plus précieux que beaucoup d'autres parce qu'il sait utiliser les traitements et guérir. » Alors, l'extraction du projectile peut être faite de trois manières, si l'on en croit les textes. La première et la plus simple, nommée « ex olque », consiste à le tirer en arrière, en suivant la route qu'il a déjà adoptée à travers les chairs. La deuxième méthode est plus délicate parce qu'elle oblige à débrider la plaie quand les barbes de la flèche viennent se ficher dans les chairs et feraient plus de dégâts si on tirait dans l'autre sens. Ce procédé est évidemment risqué parce qu'il élargit la lésion, il est douloureux parce que c'est une incision à vif, est compliqué parce qu'il demande une certaine pratique au médecin chirurgien et il doit avoir, cet homme, une main habile et rapide. C'est ce que résume un auteur du 3e siècle de notre ère qui s'appelle Sextus Iulius Africanus, qui est une sorte d'encyclopédiste qui a donc rédigé 24 ouvrages dont on n'a pas tout, enfin 24 livres de cette grande encyclopédie qu'il a appelée Broderie, Questoi. Donc, il dit, le chirurgien doit avoir une main légère pour réaliser l'incision et doit se servir d'une lame très affûtée, car un tranchant émoussé est douloureux. Cette méthode s'impose néanmoins souvent comme le seul moyen d'éloigner le trait, surtout donc quand il s'agit de flèches de ce type-là. Alors, j'ai marqué que c'était une flèche tout à fait spécifique, puisqu'elle est marquée au nom de Philippe. Alors, on ne peut pas bien lire, parce qu'à vrai dire, elle est sans doute à l'envers. Mais il y a écrit effectivement Philippos, vous voyez peut-être un petit cercle à l'extrémité à gauche, ça c'est le fi de Philippos, et ensuite tout est à l'envers. Mais bon, cette flèche marquée du nom de Philippe a été trouvée à Olynthe, donc ville qu'il a effectivement assiégée. Les traités médicaux indiquent pourtant une troisième et dernière méthode qui consiste, si la flèche est enfoncée très profondément, à pousser pour qu'elle continue la trajectoire et ressorte du corps. Un tel procédé est appelé diosmos. Il est décrit au 1er siècle de notre ère par l'encyclopédiste Aulus Cornelius Celsus, dit Cels, et repris le procédé beaucoup plus tard, au 7e siècle, par Paul d'Égine, qui fait la synthèse du savoir chirurgical antique. Mais ce procédé n'est pas mentionné dans les textes historiques, sans doute parce que toutes ces subtilités médicales échappent aux historiens qui s'intéressent surtout au sort du roi. Le deuxième temps des soins aux blessés est celui de l'hémostase. Alors, j'ai indiqué là trois exemples, en fait, parce que la première hypothèse, c'est le sang s'arrête de couler spontanément. En général, quand il y a ce que les Grecs appellent l'hypotimie, c'est-à-dire perte de connaissance, en fait, le sang s'arrête. Tout le monde est très content parce qu'il n'y a rien à faire. Quand ce n'est pas le cas, on peut surélever le membre. Donc ça, c'est le texte des épidémies 2, texte 14. Ou bien compresser, c'est le texte... et le texte des aphorismes insiste sur le fait qu'on peut mettre du froid, non pas évidemment sur la blessure, mais autour. Le dernier texte, celui qui est dans le traité des plaies, donne même une recette d'hémostatique, alors, qui exige évidemment... tout un équipement qui est rarement disponible en temps de guerre, mais enfin bon, il y a des recettes. Dans le cas des plaies sans objet perçant resté dans les chairs, l'hémorragie peut être directe si l'artère est touchée, mais la suite de la procédure demeure la même. Donc, après avoir éloigné le projectile et stoppé l'hémorragie, ce que font parfois le soldat lui-même ou un camarade, il convient de désinfecter la plaie avec du vin, du vinaigre qu'on a à disposition ou des produits d'origine minérale. Mêlant le rôle symbolique et l'efficacité curative, les anciens recourent très fréquemment au miel et à la myrrhe. Il se trouve que les propriétés antibiotiques du miel empêchent apparemment le développement des bactéries et que la myrrhe dispose également de propriétés astringentes pour le moment non élucidées. En tout cas, les vertus du miel ont fait l'objet d'études récentes qui confirment les observations des anciens en montrant qu'il agit comme une sorte d'antibiotique efficace à spectre large. Il est économique et à faible risque d'allergie. Je dis économique parce que c'est un produit qu'on trouve dans l'ensemble du monde méditerranéen et qui ne coûte pas très cher. À cela s'ajoute sa commodité d'emploi et la capacité qu'il a à entrer dans la composition de pommades. Donc, il est extrêmement courant. Une fois la plaie nettoyée et, j'insiste, séchée, les textes sont très précis sur ce point, parce qu'on l'a un peu oublié, si j'ai bien lu, pendant la guerre de 14, et ça a créé quelques difficultés. C'est pas ma spécialité. Bref, dans l'Antiquité, la plaie est séchée, et à ce moment-là commence le bandage. C'est la scène de bandage est celle qui est la plus représentée, parce que sans ça, on a quelques scènes de mort, mais enfin... voici une coupe à figure rouge attribuée au peintre Sausias qui montre deux soldats En fait, il s'agit des héros homériques Achille et Patrocle, dont le premier, Achille, donc, qui a reçu un enseignement médical par le centaure Chiron, panse le bras de son compagnon. L'objet date d'environ 500 avant notre ère, donc en gros de l'époque du grand-père d'Hippocrate, qui s'appelait déjà Hippocrate, et la précision du bandage laisse penser que c'est une pratique bien maîtrisée et en tout cas courante. Les rares illustrations, donc je le disais, dont nous disposons, concernent surtout ces scènes où un personnage s'occupe de bander un autre, sans qu'on sache exactement s'il s'agit d'un médecin, d'un camarade, d'un autre soldat, d'un infirmier, entre guillemets, on ne sait pas. Les textes historiques eux-mêmes demeurent assez vagues sur la procédure médicale, les inscriptions le sont plus encore. Voici une inscription. C'est une lettre, donc une inscription sur pierre, la lettre des citoyens de Knossos, en Crète, à ceux de l'île de Kos. Kos avait envoyé un médecin à la demande des gens de Knossos. Le texte date du dernier quart du IIIe siècle avant Jésus-Christ et rend hommage, comme c'est le cas parce que c'est assez formulaire, au dévouement du médecin de Kos au moment de circonstances difficiles. Donc je les ai mises en rouge. Les citoyens, les alliés sont blessés, un grand nombre d'entre eux en plus, et ils ont des maux d'une exceptionnelle gravité. Et Hermias, en homme de valeur, hein, comme on l'attend d'un médecin, s'occupe d'eux avec grand zèle et sauve bien des hommes de graves dangers. On voit que c'est très frustrant parce qu'il est juste question de graves dangers et de situations d'exceptionnelle gravité, mais jamais aucun détail n'est fourni. Et ça nous montre que les médecins sont régulièrement mandés par les cités, et ce, dès le début du Ve siècle. C'est le cas, en effet, d'une tablette de bronze trouvée à Idalion, donc à Chypre, en syllabaire chypriote, dont le texte est beaucoup plus long que ce que j'ai tapé là. C'est le début, enfin, pas tout à fait le début, mais... alors que les Mèdes et les gens de Kition assiégeaient la ville d'Idalion en l'année de Philokypros... en l'année de Philokypros, fils d'Onassagoras, le roi Stasikypros et les gens d'Idalion avaient invité le médecin Onassilos, fils de Nersikypros, ainsi que ses frères, à soigner les hommes blessés dans la bataille sans honoraire, et là il faut préciser, payé par les blessés. Alors, cette longue inscription note l'accord intervenu entre le roi d'Idalion et la cité d'une part, le médecin et ses frères d'autre part, moyennant une rétribution globale, qui est énorme, un talent d'argent, c'est-à-dire l'équivalent de 6000 journées de travail. Ça fait une somme tout à fait importante. Donc, moyennant cette rétribution globale, les médecins s'engagent à soigner gratuitement les blessés. Le roi et la cité s'assurent donc la présence d'un personnel soignant, quitte à ce que ça leur coûte assez cher. À l'époque hellénistique, quand les crises et les guerres se multiplient, nombreux sont les décrets qui rendent hommage à des médecins qui ont ainsi donné de leur temps, mais évidemment la question des honoraires n'est jamais mentionnée. Le grec a sauté. Alors tous les jolis signes que vous voyez là, c'était du grec. L'ordinateur n'a pas la police qu'il faut. Je suis désolée, bon, c'est pas grave. Je vais revenir en arrière, c'est quand même plus satisfaisant. Alors, souvent, les médecins sont mentionnés, parfois de manière anonyme, mais leur présence est indiscutable. Dans la plupart des cas, ils semblent être appelés, donc en cas de besoin, de la ville la plus proche, quand le nombre de blessés dépasse la capacité de soins de leurs collègues présents dans l'armée. Les blessures occasionnées par des flèches, des lances, des javelines peuvent en effet être guéries lorsqu'elles ne s'infectent pas, comme c'est le cas dans la fameuse blessure à l'œil reçue par Philippe II, roi de Macédoine et père d'Alexandre le Grand, blessure à l'œil qu'il a subie au moment du siège de Métonée en 354. Le roi en devint borgne, mais il survécut. Les armées spartiates, qui étaient célèbres dans l'Antiquité pour leur organisation rigoureuse et efficace, se déplaçaient donc avec des médecins. C'est ce que signale Xénophon, mais aucun nom de praticien des rois de Sparte n'est arrivé jusqu'à nous. ce qui, en fait, ne doit pas nous étonner. À Sparte, seuls les soldats tombés au combat reçoivent une tombe nominative qui est chargée de leur assurer la gloire immortelle. Nommer de simples médecins aurait donc été contraire à l'idéologie égalitaire. Pourtant, même dans d'autres cités, la plupart des soignants demeurent anonymes. Il faut croire que les grands stratèges du IVe siècle, même les plus célèbres, soit ne disposent pas d'un médecin officiel et permanent pendant l'expédition, soit que ce personnage n'a pas été jugé digne d'une mention par les auteurs en raison de son statut de simple assistant à la santé du chef. Dans la bataille qui oppose près de Mantinée en 362 les Thébains aux autres Grecs, des médecins sont requis au chevet d'Épaminondas, commandant en chef des Thébains, qui est grièvement blessé. Alors je cite Diodore qui raconte ça au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les médecins convoqués déclarèrent qu'une fois qu'on aurait retiré la javeline de la poitrine, la mort surviendrait obligatoirement. Ils font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire pronostic. Le pronostic, hélas, s'avère exact. Quand la javeline eut été retirée, continue Diodore, sans trouble, Épaminondas expira. Alors, peut-être faut-il voir dans l'incapacité des médecins à sauver le roi, malgré leur nombre, parce qu'ils étaient vraisemblablement assez nombreux, une raison suffisante à cet anonymat. On peut se demander s'ils avaient accompagné depuis Thèbes le stratège ou s'ils étaient venus en hâte depuis la petite cité de Mantinée qui était à côté des combats. En tout cas, l'état d'Épaminondas justifiait que l'on ait convoqué plusieurs médecins. Hélas, leur avis est unanime et ils donnent juste le temps au roi de se préparer à une belle mort. À l'époque hellénistique, certains praticiens s'engagent pourtant à accompagner des armées en campagne lorsqu'elles s'éloignent de leur terre, comme l'auraient fait des mercenaires. Et il y a tout lieu de penser qu'en cas d'une bataille proche de la cité, les médecins locaux n'étaient appelés, voire réquisitionnés, qu'en aide supplémentaire. La tâche des médecins de campagne est avant tout de prendre en charge le chef, le stratège. Mais ils peuvent également, le cas échéant, s'occuper des blessés, des soldats. Ben oui. Dans l'expédition des 10 000 en 401-400, racontée par Xénophon dans l'Anabase, les blessés sont laissés en arrière dans les villages, avec des médecins. Ou bien ils sont confiés à des civils pour des soins que l'avancée de l'armée ne permet pas de leur prodiguer. Les nombreuses blessures d'Alexandre le Grand qui ont été soignées par plusieurs médecins, dont le statut de médecin des armées se confond avec le statut du médecin du roi, donne des exemples tout à fait significatifs que je n'ai pas repris. Mais Philon de Byzance, qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ, fournit une liste de précautions à prendre en cas de siège. Et alors c'était le joli texte avec plein de grecs. Donc, il faut aussi qu'il y ait à l'intérieur de la place d'excellents médecins entraînés à soigner les blessures et à extraire les armes de jet, munies de remèdes, des instruments appropriés, et que la ville leur fournisse du cérat, du miel, des bandes, des compresses, pour éviter que ne meurent les soldats blessés, et afin qu'ayant rapidement recouvré la santé, ils se rendent utiles dans les affrontements futurs, prêts à combattre avec ardeur, en pensant à la façon dont on les a soignés et entretenus. Il arrive souvent que cela assure le salut de la cité. La présence de soignants formés aux soins, qu'ils soient infirmiers, chirurgiens ou médecins, est donc mentionnée, bien qu'elle ne soit pas mentionnée de façon systématique, mais elle est signalée par de multiples auteurs. Pour conclure, subir moins de pertes humaines laisse l'armée plus puissante. Elle renforce le pouvoir. Encore faut-il que les circonstances et l'état des finances permettent d'engager des soignants, car si les cités hellénistiques remercient les médecins pour avoir accepté d'exercer leur art pendant une durée limitée en échange d'un engagement officiel, la présence systématique de médecins militaires qualifiés dans toutes les armées n'est pas attestée. Elle est réservée au roi, qui dispose donc de praticiens attachés au leur service, et on ne sait pas exactement dans quelle mesure les troupes peuvent être ou pas soignées par le médecin en question. En revanche, il y a du personnel soignant, et les Grecs qui ne sont pas formalistes les nomment également iatroi, médecins. Ce personnel est à coup sûr capable d'intervenir. Et dans les fonctions d'infirmier, de médecin, de chirurgien, il y a toujours une personne qui n'est pas formellement engagée, mais qui est présente. Prétendre les inclure à la hiérarchie militaire sur le schéma de l'armée romaine, telle qu'elle a été développée à partir du IIe siècle de notre ère, ferait à coup sûr contresens pour le monde grec. Les médecins grecs, comme la plupart des autres corps de métier, que ce soit le génie, le personnel de l'intendance, les musiciens, etc., suivent les troupes et dispensent leurs soins selon les besoins. Et ils partagent, en fonction de leur qualification ou de leur qualité personnelle, la vie des officiers, celle des soldats, en restant cantonnés dans le camp pendant la bataille. La réflexion sur la nécessaire présence de médecins auprès des troupes est certaine, on l'a vu avec le texte de Philon de Byzance, elle est bien attestée. En effet, les chefs militaires, par leur sens de l'efficacité, beaucoup plus que par des considérations qu'on qualifie maintenant d'humanitaires, ont le devoir de rassembler des hommes en état de combattre. C'est la fin du texte. Il faut qu'ils puissent repartir au combat. Il faut donc permettre des soins minimaux pour les soulager, les renvoyer au front, et en même temps les rassurer et s'assurer ainsi de leur dévouement. À l'image des médecins publics, dont le salaire est assuré forfaitairement par la cité, puis complété par des patients plus exigeants ou plus fortunés, il est à supposer que les médecins de campagne devaient recevoir des honoraires convenus à l'avance pour assurer un minimum d'assistance médicale et que les soldats désireux de soins particuliers avaient probablement à payer le surcoût, mais finalement, de même qu'ils finançaient sur leur solde la nourriture, la boisson, les armes et les vêtements. Les dépenses médicales pouvaient peser lourd dans le budget d'un stratège si les blessés et malades étaient nombreux. Pourtant, et je donne la parole à Xénophon au début du IVe siècle avant notre ère, les États qui veulent qu'on se porte bien chez eux ont des médecins et les généraux en emmènent avec eux pour leurs soldats. Ou, sous une autre forme, la phrase qui est là, quelle serait l'utilité pour une armée d'avoir des tacticiens, donc tacticones, sans ce qu'il faut pour vivre et sans la santé à nœud tout ugaïniein. Peu d'entre les médecins des armées grecques ont laissé un nom dans l'histoire, sauf les médecins d'Alexandre, mais leur présence dans les expéditions a certainement contribué à sauver quelques vies, but de toute médecine, qu'elle soit civile ou militaire. Je vous remercie.
Merci à vous, madame. J'admire toujours les antiquisants qui, à partir d'une documentation infiniment lacunaire, réussissent à reconstituer un monde aboli et de manière qui est tout à fait convaincante. Alors j'aimerais vous poser une question, étant donné les guerres perpétuelles en Grèce, surtout à l'époque des cités, et le fait que les armées étaient accompagnées de médecins, quel est votre sentiment sur, j'allais dire, la contribution des guerres au développement de la médecine? Bien entendu, il n'y a pas de statistiques, mais enfin, quel est votre sentiment en tant que spécialiste de ces questions?
Je pense qu'effectivement, les blessures de guerre, comme par la suite, c'est ce que Galien explique, Galien dit qu'il a été médecin des gladiateurs et qu'il a énormément appris au moment de cet exercice-là. Parce que, alors, il est très fier, Galien est toujours très fier de lui, donc il explique qu'il a sauvé beaucoup de gens, beaucoup plus que tous ses confrères, et que c'était la manière qu'il avait de faire de l'anatomie, en gros de l'anatomie. Donc, Galien l'explique, parce que Galien est bavard. Mais les autres certainement devaient également acquérir des connaissances. Il n'y a pas de... La dissection est un sujet un peu difficile, mais normalement le tabou qui porte sur le corps fait qu'on ne peut pas ouvrir un corps mort, même pas vivant, sauf dans un cas particulier, mais je ne vais pas en parler. Donc c'est le seul moyen de savoir comment se présentent les muscles, les os, donc l'intérieur du corps. Donc il est évident que les traités que l'on appelle les fameux traités chirurgicaux du corpus hippocratique ont dû bénéficier de cette connaissance-là. Après, Il n'est jamais précisé. D'abord, on ne sait pas l'auteur du traité, ensuite on ne sait pas la date, et on ne sait évidemment pas s'il a suivi telle ou telle campagne et s'il a pu voir des blessés à tel endroit.
J'ai l'impression que donne enfin, votre exposé, c'est que la contribution des guerres est tout de même fort importante. Enfin,
oui.
Peut-être pas pour les cures, mais enfin pour la connaissance du corps humain, en tout cas.
C'est certain. Cela dit, elle n'est pas explicitement présentée comme apportant des connaissances. Mais de toute façon, la guerre est tellement présente dans l'ensemble du monde que certainement les auteurs ne jugeaient même pas nécessaire de préciser que c'était à l'occasion d'une guerre qu'ils avaient appris ceci ou cela. Mais les connaissances... Le premier texte fondateur pour les blessures de guerre, c'est évidemment l'Iliade. Mais l'Iliade est un texte poétique, c'est de la littérature. En gros, dans l'Iliade, soit il meurt tout de suite, soit la flèche a volé transpercée, ils partent au combat dès les 5 minutes qui suivent. Donc il n'y a pas en réalité de blessés dans l'Iliade. On meurt des blessures, mais il n'y a pas de soins, sauf Ménélas. Mais ça, c'est encore un cas très particulier et tout à fait symbolique. Donc les blessures font partie de la vie quotidienne et je pense que l'apport des guerres, y compris peut-être pour les quelques notions de désinfection, d'antiseptie, etc., peuvent être tout à fait utiles pour les civils.
C'est tout à fait intéressant parce que je pense à une étude comparative, je ne sais pas si elle a été faite, quelles sont les origines de la médecine chinoise, quelles sont les origines de la médecine indienne. Je serais très étonné que du côté chinois, et surtout indien que je connais un peu, ce soit la guerre qui ait contribué beaucoup au développement de la médecine. Du côté indien, c'est probablement davantage les pratiques ascétiques, d'où les études sur le souffle, sur les chakras et ainsi de suite. Mais je n'en sais rien. Et je ne connais pas d'études comparatives sur les origines. Enfin, ce serait intéressant enfin, de savoir. Ce serait très symptomatique, en tout cas.
C'est-à-dire qu'en fait, les traités chirurgicaux sont quand même relativement à part dans la conception générale de la médecine antique, parce que toute la médecine grecque repose sur une explication philosophique de l'équilibre du corps, de la santé, etc. Et donc, la blessure intervient comme un événement, comme un accident. Voilà, c'est un événement extérieur. Et du coup, les traités ne sont pas tout à fait rédigés de la même façon que les autres traités du corpus hippocratique. Ils ont vraiment une existence spécifique. Alors, on déplore évidemment le traité perdu qui était sur les blessures de guerre et les traits. Alors, mais bon.
On le retrouve.
Oh, sûrement.
Bon, à toi, si vous êtes allé voir.
Non, j'ai pas le droit, moi.
À Sainte-Catherine. À Sainte-Catherine, allez. Bon, si quelqu'un.
Alors, je ne suis pas Antoine Pietrobelli.
Quelqu'un veut intervenir, là.
Je vais dire un mot sur. Sur la façon de soigner les blessures, ça m'a fait penser il était à ce moment-là, il devait être capitaine, Marbot, pendant la bataille de Yellow, donc en 1807. Et alors, donc, il a eu un trouble psychique, puisqu'il a été complètement sonné, il a eu le vent du boulet, hein, donc là, c'est clair. Mais surtout, il a eu aussi dans une de ses bottes, il avait un pied gelé. Donc là aussi, 1807, c'est là où on a découvert les pieds gelés, et commencer à nécroser, c'est-à-dire commencer à avoir la gangrène. Et pour le soigner, le médecin a retiré la partie nécrosée, donc de façon violente, enfin, je veux dire avec un scalpel. Et pendant 8 jours, matin et soir, il lui a versé, alors dit-il en hauteur, du vin sucré. Et il a pas perdu son pied. Donc on est dans quelque chose de très semblable, puisque vin plus miel, vin plus sucre. C'est le même processus. Quoi.
Il y a d'autres procédés, mais pour la nécrose et les membres gelés, là, on a Xénophon. Hein, l'expédition des 10 000, il y a des tas de membres gelés, et il explique que surtout, il faut dire aux soldats, premièrement, de ne pas enlever leurs sandales, parce que s'ils les enlèvent, ils ne peuvent pas les remettre, et surtout de ne jamais s'arrêter. Donc il faut qu'ils bougent en permanence. C'est un peu compliqué, mais. Parce que sinon, ils gèlent sur.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant sur.
Ah, Xénophon est plein
d'histoires de membres gelés, c'est quand même un des grands problèmes de la Première Guerre mondiale, mais on l'a dans toutes les guerres coloniales, on l'a connu, on a des gens qui ont des pieds gelés alors qu'il fait il ne fait pas 0 degré, enfin, etc. Mais ce n'est pas... Voilà, oui, oui, non, mais je veux dire, je parle là de... C'est ça dont parle Marbeau dans ses mémoires. Et c'est quand même, là aussi, vous savez, c'était, je ne sais plus quel est le général pendant la campagne d'Italie, donc de 43, qui, voyant le médecin le matin, donc on était en juillet-août, et il lui dit, alors combien de grippe, combien de pieds gelés ? Donc en Italie, bon alors je sais bien que le pied gelé c'est plus compliqué, c'est le pied tranché, enfin c'est plus compliqué, il y a une sorte de bactérie, machin, mais ça fait partie des, justement des risques de tous les gens qui marchent et qui n'ont pas les chaussures adaptées. Quoi,
Oui, il y a des tableaux tout à fait saisissants, des mots des soldats dans des conditions de vie dramatiques, quand ils doivent traverser bon, les armées d'Alexandre, là j'ai pas du tout parlé des armées d'Alexandre, mais bon, normalement si tout va bien, le livre devrait sortir là dans les semaines qui viennent, sur, il devait sortir en septembre. Donc les armées d'Alexandre, les auteurs décrivent, alors c'est évidemment toujours dans la perspective de montrer combien Alexandre est un bon chef qui s'occupe de ses troupes. Ça, c'est le point de départ. Et Alexandre va jusqu'à s'intéresser aux pauvres soldats qui marchent sur des kilomètres dans le désert du Gédrosi ou qui traversent les montagnes qui sont gelées. Enfin, il y a des conditions terribles et on a quelques détails. Mais il leur arrive des choses épouvantables. Et les textes historiques le disent.
Et les pieds gelés, entre guillemets, étaient considérés par les psychiatres pendant la Deuxième Guerre mondiale comme un signe de fatigue. De fatigue sévère, ah oui, vous savez pas, de fatigue sévère, d'effondrement psychique, était pris en compte comme étant des troupes qui commencent à vraiment fatiguer, il faut faire attention et les remettre au repos, etc. Enfin, c'était un des signes, entre autres, avec d'autres.
Oui, je un peu en dehors du sujet. Est-ce que le sport a entraîné des pratiques de soins pour les hommes qui se blessaient?
Ah oui, tout à fait. Dans les gymnases, alors ça c'est à l'époque hellénistique, dans les gymnases, il y a des iatroleptes, enfin un iatroleptes, deux iatroleptai, qui sont chargés de procurer des massages. Mais là, on ne s'adresse pas au commun des mortels, c'est oi apoto gymnasio, ce sont les gens du gymnase, donc qui de toute façon auraient eu les moyens de se payer un masseur personnel à la maison. Mais il y a, dans le cadre du gymnase, tout à fait, gymnase qui est consacré à la fois à l'exercice physique, mais aussi à la transmission des connaissances. Ça fait en même temps salle de sport et...
centre culturel.
Donc là, il y a, il y a tout à fait des spécialistes de toutes les entorses ou toutes les blessures qu'on peut se faire dans le cadre du sport.